C'est-à-dire que vous avez une réalité objective, physique, sur laquelle on se dit ben, on devrait se mettre d'accord sur combien il y a de pétrole, combien il y a de charbon, etc. En fait, c'est quand même plus difficile qu'il paraît, parce qu'on ne sait pas aller voir dans la roche exactement quelle est la partie qui sortira, qui voudra bien sortir de, parce que souvent c'est du grès avec dans le grès des boules, des billes de pétrole. Et comment le pétrole circule-t-il dans le grès, c'est variable d'un gisement à l'autre, etc. Donc il y a de vraies difficultés physiques. Bon, ce que Jean-Luc a peut-être pas dit sur le charbon et sur le gaz, c'est qu'on a beaucoup plus cherché le pétrole que les autres énergies. Donc on a probablement, notamment sur le charbon, on ne cherche plus de charbon depuis longtemps, on a probablement sur le charbon des gisements qu'on n'a pas été voir. Mais encore une fois, c'est le pétrole qui est l'énergie, je dirais, de référence, l'énergie dominante, parce que c'est elle qui a la logistique la plus facile, le gaz naturel étant celui qui a, étant l'énergie qui a la logistique la plus difficile. Il faut bien comprendre la différence entre les deux de ce point de vue. Bon, mais derrière ça, pourquoi, au-delà des questions physiques, au-delà des questions économiques, on a du côté de l'AIE et du côté des experts des batailles de chiffonniers qui sont pour vous totalement impigeables? Il y a deux raisons. Vous êtes pays pétrolier. Qu'est-ce que vous allez annoncer à l'extérieur comme étant l'étendue de vos ressources? Si vous dites que vous n'en avez pas beaucoup, alors on ne va pas vous courtiser. Donc si vous dites que vous en avez énormément, les gens vont faire la queue. Donc vous avez inévitablement la part des compagnies, des pays, un jeu de poker menteur sur, dans les gisements qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir retirer. Et puis, l'AIE. Alors, le cas de l'AIE est un cas extraordinairement intéressant d'un point de vue institutionnel. Vous avez une institution qui a été constituée juste après les chocs pétroliers, par les pays consommateurs, dans une logique un tout petit peu belliqueuse, disons les choses telles qu'elles sont, pour faire barrage à l'OPEP. Alors, à tel point que la France, à l'époque, dit « Oh là là, cette affaire-là, c'est trop agressif, j'adhère pas à l'AIE. » Et l'adhésion de la France à l'AIE est toute récente. Et donc vous avez une structure technique avec des experts qui sont là pour surveiller le marché pétrolier, pour éviter que les crises pétrolières des années 70 ne se reproduisent. Mais alors là, vous avez une espèce de piège qui se met en place qui est absolument extraordinaire. Dans le début des années 2000, on voyait bien que la crise récente pétrolière allait arriver. En fait, on le sait depuis 1995, réunion du Conseil mondial de l'énergie à Tokyo, et des simulations nous sont présentées, et ces simulations montrent que la zone du monde entre Bombay et Séoul, Chine et Inde, va en 2030 consommer à elle toute seule la totalité de la production de l'OPEP. Bon. Donc on voit bien que ces gens-là qui sont en train de décoller, ils vont tirer sur le marché. Donc on voit bien à ce moment-là qu'on va avoir des difficultés. Alors, bien évidemment, l'AIE voit ça, elle aussi. Simplement, si elle dit « Attention, il y a des problèmes devant nous », ça veut dire qu'à ce moment-là, elle dit à l'OPEP « Augmentez vos prix ». Et donc, l'AIE prend comme posture une posture simple. On ne réveille pas un ours qui dort. Bon. Et donc, l'AIE va jusqu'au bout s'auto-intoxiquer à la demande d'un certain nombre de pays par rapport à l'OPEP en ne disant pas le problème qui va venir. Alors, si vous voulez, ce n'est pas une interprétation de ma part, que les choses soient claires. C'est des discussions que j'ai eues X fois avec Claude Mandil, qui était rien moins que le directeur général de l'AIE. Donc le directeur général de l'AIE était dans un problème moral difficile de voir une situation qui se met en place, une tutelle américaine extrêmement forte sur l'organisation et qui veut à tout prix fluidifier, si je puis dire, l'approvisionnement des États-Unis venant du Moyen-Orient, avec des relations dans le Moyen-Orient par rapport aux États-Unis qui était, vous le savez bien, compliqué. Et donc il arrive dans cette affaire de crise pétrolière en étant celui qui était chargé de surveiller le truc et le seul qui ne l'ait pas vu. Vous voyez la difficulté de fonctionnement des institutions. Là, je ne suis pas dans une logique de reproche, je suis dans une logique d'explication à quel point, quand vous êtes sur des sujets aussi lourds, démêler le vrai du faux est extraordinairement difficile. Donc il faut avoir ces éléments de compréhension qui sont fondamentaux.
Oui, tout à fait. En fait, l'AIE a fait une chose, c'est-à-dire ils ont mis en place des stocks stratégiques, des réserves stratégiques qui permettent de tenir un blocus de 3 mois. C'est à peu près ce qui a été fait de concret. Pour le reste, c'est beaucoup d'économistes qui se sont de plus en plus éloignés des réalités du terrain et qui sont restés sur un discours, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et donc, il aura fallu, à mon avis, beaucoup de temps pour, même en interne, comprendre, parce qu'il y a une sélection qui se fait sur les gens qui peuvent monter dans ce type de structure, là, il faut quand même être capable d'avaler certaines couleuvres, et puis ça passe mieux quand on a cette vision du monde. Donc, et là, je pense qu'il y a une compréhension réelle certaines personnes, quand même, il y en a qui comprennent bien ce qui se passe, qui essayent de faire passer le message. Hein. Si vous regardez le rapport de 98, c'est assez amusant. Il y a un petit message subliminal qui a réussi à être fait passer, dans lequel il était mentionné du pétrole non conventionnel, non identifié. C'est-à-dire que finalement, le technicien à son niveau a réussi à faire passer ce. Si vous regardez, vous voyez que non conventionnel, non identifié, bon, c'est quand même. C'était un peu flou, hein. Et si vous enlevez ça, vous arrivez à peu près à ça. Hein. On est en ligne. Donc, et ils essayent de faire passer pour certains des petits messages, mais bon, politiquement, ça bloque. Et sur le dernier rapport, il y a aussi ce petit décalage. Certains chapitres à l'intérieur, vous voyez des choses qui sont finalement assez pertinentes sur la dépression des gisements. Et puis quand vous regardez la conclusion et le chapeau, c'est.
Je reprends la parole pour le recommander d'une autre façon. C'est pas une chose récente dans l'histoire que vous avez des processus d'auto-intoxication à l'intérieur d'une profession. Donc ça pose la nécessité de la démocratie, la nécessité du pluralisme d'expertise par rapport à ces risques d'auto-intoxication. Vous avez été victime d'un risque d'auto-intoxication l'année dernière. Exactement sur la même teneur qu'a été le débat sur la sécurité des placements financiers. Hein. Bon, tous les gens du monde financier élaboraient des choses de plus en plus sophistiquées, que eux seuls étaient capables de comprendre, comme eux seuls ils étaient aussi dans un discours sur la confiance. Donc ils ont collectivement assuré une confiance jusqu'à l'accident. Et là, on est exactement sur la question du pétrole dans la même situation. Il faut, pour que les prix soient bas, il faut la confiance. Et donc, pour que les prix restent bas, il ne faut pas faire de prospectives qui montrent les difficultés. Vous voyez, c'est des processus qui sont des processus fréquents, sur lesquels il n'y a que le pluralisme d'expertise qui permet de contrer ça. Alors, par rapport à ce que dit Jean-Luc, Le monde pétrolier a quand même été extraordinairement secoué par la crise des 2 dernières années. Il n'avait pas vu le truc arriver. Ça a flambé à un point extrêmement grave, parce que là, on a eu la démonstration dans l'autre sens. C'est-à-dire que quand on monte une difficulté, vous avez à ce moment-là des prédateurs d'une autre nature qui, eux, parient sur la difficulté et qui font flamber le prix dans l'autre sens. Donc on est allé à $147 le baril. Donc vous voyez, la relation entre la ressource, la gestion d'une prospective, la confiance et la maîtrise des prix, vous voyez qu'elle est extraordinairement difficile. Parce que le fait de lever le voile sur la difficulté ne suffit pas pour résoudre le problème, puisque à ce moment-là, il y a des gens qui viennent spéculer pour faire flamber les prix.
Je vous remercie. Merci, parce que c'est l'analyse que je fais de comportement de l'AIE sur le domaine électrique et gazier. Et je vois que vous avez la même analyse sur le versant pétrolier. Simple question complémentaire, parce que les experts souvent nous disent oui, mais, parce que je partage votre avis sur le fait qu'on est au moins un plateau, voire sur un pic. Donc c'est pas. Et je reprends un argument, et je voulais votre point de vue sur un argument qui nous est souvent opposé sur cette question, qui est de dire oui, messieurs, mais les progrès technologiques, hein, pour aller plus loin dans les réserves et pour extraire, ça coûte plus cher. Mais la réponse est souvent nous allons faire des progrès technologiques qui font que, évidemment, nous allons retrouver très rapidement des réserves extractibles à un coût compétitif. Je vous le fais simple et un peu, je dirais, formaté. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, vous avez pu faire une analyse rétrospective qui permet de dire, oui, effectivement, il y a eu ces trains-là, mais ils sont en cours d'épuisement? Parce que ça, on peut faire certaines analyses technico-économiques qui peuvent, n'étant pas un spécialiste pointu, je dirais, du domaine pétrolier, est-ce que vous avez pu donner des contre-arguments à cet argument qu'on entend très souvent dans les milieux d'expertise
oui.
et politique?
Oui, alors en fait, effectivement, il y a des progrès technologiques qui sont faits. Maintenant, dans quelle mesure ils vont réellement pouvoir changer la donne? Ce qu'on constate, c'est que les progrès technologiques qui ont été faits permettent surtout, notamment dans le domaine de l'exploitation offshore, d'augmenter la vitesse à laquelle on exploite un gisement. Parce qu'il faut bien comprendre que quand vous avez un gisement offshore, donc sous la mer, la plateforme est très chère à exploiter. Et là, vous ne pouvez pas vous permettre de laisser faire ce qu'on fait sur des gisements terrestres ou aux États-Unis. Il y a la production moyenne d'un gisement, c'est dans certaines régions, c'est de l'ordre de 3 à 5 barils, parce que c'est des régions qui sont plutôt plus actives, mais on a les infrastructures, vous avez votre pompe à balancier qui tourne, et puis ben, ça c'est pas gênant. Vous ne pouvez pas faire ça dans l'offshore, il vous faut d'autres techniques qui consistent à injecter du gaz, à faire en sorte que la production se passe plus rapidement. Est-ce que vous en sortiez plus? Ben, pas réellement, plutôt même moins au final. Alors il y a une période où si vous regardez les profils et que vous les comparez aux profils précédents, vous dites, ah, regardez, alors là si j'extrapole, vous voyez, là, mon gisement là, je vais en sortir beaucoup plus. Puis quand vous regardez la fin de l'exploitation, vous dites qu'il y a un moment où ça plonge. Donc, il y a quelques cas de figure où, effectivement, on a pu augmenter, mais au final, on se rend compte que le gros déterminant, c'est la nature de la roche-mer, la roche-réservoir. Et si vous avez un ancien, récif corallien très poreux, ben vous allez pouvoir récupérer 90%. Et si vous avez un ancien bloc granitique, une bordure de trottoir, ben vous allez réussir à en récupérer 2%. Point. Et ensuite, vous avez beau avoir des techniques assez sophistiquées, vous ne pouvez pas aller creuser pour remonter la roche, pour sortir. Oui, en laboratoire, on sait faire des choses. Puis il ne faut pas oublier une chose simple, qui est que c'est quand même là, des vendeurs de techniques, de technologies qui ont un discours sur la technologie et qui essayent de vendre leurs marchandises, ce qui est une bonne foi. Et alors là, je pense que c'est intéressant de replacer dans le contexte institutionnel. Il y a éventuellement un souci qui est que, par exemple, l'IFP vende la technologie, l'Institut français du pétrole, et ils ont changé de mode de financement récemment, et maintenant, il faut qu'ils aillent chercher. Alors, ils auraient plutôt tendance à pousser ce discours, dans une certaine mesure, et ça peut être compréhensible, on a des effets de système, des jeux d'acteurs. Autre élément que je voulais vous donner d'une manière plus générale, alors c'est pas un argument scientifique directement, mais EDF R&D a fait une série d'ateliers sur les raretés énergétiques. Là, vous avez le nom de Jean Laherrer, avec qui je travaille. Alors, je n'ai pas trop précisé, mais j'ai écrit un livre en 2005 qui s'appelait « La vie après le pétrole », dans lequel il y avait le graphique précédent, on était issu. C'est celui-là.
Je crois que, sauf erreur de ma part, que figurait...
Oui, voilà, donc je vous je le dis. Donc, dedans, il y avait ces estimations. Moi, je travaille avec Jean Laherrer qui a fait la préface. Et c'est finalement Jean Laherrer qui a été appelé, parce que lui, c'est un ancien de Total, et il a accès, par l'intermédiaire de son réseau, aux données confidentielles et techniques sur les gisements pétroliers. Bah, ça coûte environ $1 million par an. Lui, en tant que retraité, c'est pas lui qui paye. On ne peut pas dévoiler par quel biais il les a, mais il a un bon réseau. L'IFP n'a pas, par exemple. Donc, enfin, importe. Et donc c'est lui qui EDF a fait appel, c'est cette série d'ateliers qui a duré 2 ans, qui a débuté fin 2007. Et il y a donc eu une suite à cette présentation. Alors on ne peut pas trop dévoiler qui était présent, mais il y avait tous les industriels de l'énergie, sauf un, vous pouvez imaginer qui, c'était EDF R&D qui organisait. Il y avait un espèce de consensus. Il y avait un espèce de consensus sur ces chiffres-là. Alors, on n'était pas dans un débat, on n'est pas à 5 ans près, hein, mais globalement, la Cour, personne n'a été dire c'est n'importe quoi. Et on était sur une base semi-confidentielle, c'est-à-dire qu'on va, pour que les gens puissent parler librement, on ne va pas aller dire qui a dit quoi. Hein, donc, c'est pour ça que je reste pas plus précis là-dessus. Donc là, c'est plutôt pour essayer de l'inscrire d'un point de vue institutionnel. Il y a des gens qui essayent de réfléchir sur ces questions. Il y a un relatif consensus, mais on n'est pas prêt à une baisse de 2% par an à partir de 2020. Personne n'a de dossier sérieux dans les tiroirs pour pouvoir dire qu'est-ce qu'on fait là. Donc j'espère que vous allez un petit peu réfléchir. Alors je pense qu'on a pris du retard pour la deuxième partie. J'attends les consignes pour voir comment on fait.
Alors, on va. Parfois, il marche de manière extrêmement efficace. Oui, on avait prévu une pause à 11h15. Je crois que Jean-Luc Van Gogh est à la moitié de son exposé, à peu près.
Oui, enfin, oui. J'ai pris les questions en cours, hein, c'était voulu, donc voilà. Alors,
est-ce qu'on fait quand même une pause et on reprend à 11h30 ou on enchaîne sur la deuxième partie?
Non. Oui, je pense que je vais vous donner les principaux éléments de la deuxième partie. Pour que vous ayez une petite idée de la manière dont ça s'articule, je crois que l'essentiel était là, hein, a été dit. Donc, la réponse, je ne vais pas le promener trop vite, les options face au pic, le premier réflexe, il faut quand même le voir, je vois des signes, qu'est-ce qui se passe? Il faut couper un autre micro, là. Ah, celui-là. Il y a de la lumière.
Celui du fond.
Ah, celui du fond.
Pas allumé.
Le tien est allumé. Oui, oui, bon, alors... voilà, c'est une question intéressante, mais on ne sait pas trop comment faire.
Alors, exactement.
Donc les options, trouver des énergies de substitution. C'est le premier réflexe qu'on a et que tout le monde a, c'est on va augmenter la production d'autre chose. Et donc ça, autre idée, c'est de réduire la consommation générale. Et en fait, c'est plutôt vers cette deuxième solution qu'il faut se tourner parce que on a bien vu que, et c'était un petit peu ce que j'ai essayé de vous montrer sur les différentes contraintes, qu'on ne va pas réellement pouvoir augmenter grand-chose, et pas dans une mesure suffisante. Donc, les formes d'énergie de substitution, il y a bien évidemment les énergies renouvelables, avec leurs particularités, alors RTE vous en parlera, ce sont des énergies intermittentes, et donc, quand on veut produire de l'électricité pour les raccorder au réseau, on a éventuellement des soucis. Ce qui permet d'insister sur une qualité incroyable du pétrole, qui est le fait d'être un stockage assez condensé de l'énergie, facile à utiliser. Et ça, il n'y a pas d'autre source d'énergie qu'en ces propriétés. Et donc, on va toujours énoncer, adapter au fil des ans et des siècles, à cette disponibilité d'énergie et à un mode de fonctionnement qui tient compte du fait que cette énergie est disponible sous cette forme. Et on parle de mondialisation et d'avoir été maître des ateliers du monde en Asie, et bien toute la logistique de la mondialisation, c'est le pétrole de marché. Donc c'est aussi ça que ça pose comme question, c'est-à-dire est-ce qu'on a une relocalisation à partir du moment où on n'a pas réussi à anticiper suffisamment la chute de la production à venir. Donc ici, vous voyez... en bleu, vous avez les énergies garanties, puis vous avez les plus intermittentes en jaune, et ça va être un élément à gérer. Je ne rentre pas dans les détails, j'essaie de passer assez rapidement. Le message principal, c'est que il y a une chose à faire, c'est augmenter l'efficacité énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut essayer, alors ça dépend à quelle échelle on se place, et là, la logique territoriale est intéressante, essayer de faire la même chose en consommant moins. Alors on peut se placer au niveau des équipements technologiques de base, c'est-à-dire le véhicule. On veut un véhicule qui me fait faire les mêmes trajets, je ne change pas mon comportement, mais avec un véhicule qui consomme moins. Et ensuite, cette notion d'efficacité énergétique, on peut l'appliquer à un territoire un peu plus vaste, où on va dire, je vais mettre en place des transports en commun, ou après, essayer de l'intégrer au niveau d'un pays. et dire il va falloir qu'on modifie notre organisation, voire plus large, continent européen, qu'on modifie notre organisation socio-économique pour pouvoir réussir à fonctionner avec une énergie disponible sous éventuellement une autre forme et de manière moins abondante. Et alors si on a commencé à avoir beaucoup plus d'énergie intermittente, sachant que l'énergie est difficile à stocker, les énergies renouvelables intermittentes, on pourrait se dire éventuellement on va adapter la production aux jours très ensoleillés où on a, ou aux jours très venteux où on a plus d'énergie. C'est pas du tout ce que, la direction dans laquelle on part, puisque là on a une énergie presse-bouton. J'appuie, j'ai l'énergie au moment où j'appuie sur le bouton et je la veux tout de suite. Alors c'est une piste que je vous livre parmi d'autres, mais qui veut dire commencer, qui va vous voyez à tout ce à quoi ça peut toucher si on commence à, dire, à prendre sérieusement en compte le fait que eh ben, on produira plus les jours où il y a plus de soleil, où il y a plus de vent. On n'en est pas encore là, hein. On a encore suffisamment, si j'ose dire, malheureusement entre guillemets, parce que c'est une perspective qui me paraît bien, d'énergie pour pouvoir quand même produire tous les jours et ne pas être embêté par rapport à ça. Mais c'est une piste et on voit à quoi elle touche et c'est pas uniquement technique. Donc voilà, ça c'est. Et chaque fois que vous voulez faire une diffusion, donc un pas vers l'efficacité énergétique, vous avez toujours la question centrale qui est soit je prends les technologies existantes aujourd'hui, je peux déployer relativement rapidement, soit j'attends un saut technologique ou une amélioration technologique. L'arbitrage sera toujours là. Alors je vais passer assez rapidement et puis passer sur quelques slides privilégiés. Alors, voilà, pour raccourcir. Deux gros chantiers, le bâtiment et les transports. Les bâtiments, vous voyez ici, augmenter l'efficacité énergétique des bâtiments, c'est une prospective qui a été faite par EDF R&D, consisterait à essayer d'améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, mais toujours. On est là aujourd'hui, on va juste regarder le résidentiel, on est à 164 kWh par mètre carré environ. Et là, si on va au plus volontariste avec les pompes à chaleur, il faudrait sur le neuf passer à 28. Et sur le rénové ancien, c'est un gros chantier, à 50. Et alors vous voyez le coût, hein, c'est 112 milliards et 417 milliards. C'est pas négligeable, hein, le surcoût de ce genre de mesure. Et si vous faites le même exercice sur le tertiaire et que vous regardez le total, on arrive à 680 milliards d'ici 2050. Ça fait environ 17 milliards par an pendant 40 ans. Donc c'est un chantier énorme. Et là, on mesure bien la difficulté. Et là, on voit aussi qu'on a un chantier pour une relance économique quelque part. Hein. C'est pas négligeable. Alors je passe au deuxième chantier qui est l'efficacité énergétique dans les transports. Alors, le pétrole dans le monde, c'est la moitié est utilisée en gros dans les transports. Ensuite, vous avez un quart pour le fuel, plutôt chauffage ou industrie, un petit 10% pour la production, un gros 10% pour la production d'électricité, un petit 10% pour la pétrochimie, puis ensuite l'agriculture. Plus que 50% dans les pays industrialisés et riches, on est plutôt presque à deux tiers. Hein. Donc nous, on est à plus que 50%. Donc on voit que le transport, c'est un énorme chantier pour le pétrole. Si on voit dans quoi est utilisé le pétrole, c'est surtout pour le transport routier à 80%. Et dans ce transport routier, c'est plus de transport de passagers que de transport de marchandises. Et vous voyez qu'il y a un gros, il y a un 13% qui est assez important pour le transport aérien. Et c'est, tout le monde le dit, le mode de transport qui va être le plus impacté par la crise qui arrive. Au point que quand on essaie de lancer le débat dans le milieu aérien, c'est très difficile parce que ça veut dire envisager des plans d'adaptation assez drastiques. Pour faire simple, on ne va pas rentrer dans les détails, mais est-ce qu'on ferme Orly, hein, et qu'on se concentre sur Roissy et en gros, on en fait une zone commerciale et c'est une zone qui pourrait être valorisée. Hein, si vous prenez la surface d'Orly pour l'aéroport de Paris, c'est quelque chose qu'ils pourront valoriser parce que c'est une zone peu construite, assez proche d'une agglomération. Donc, mais typiquement, vous voyez ce que ça implique, ce débat. Hein, c'est pas, Donc là, je l'ai pris exprès à l'arrache, mais on voit qu'assez rapidement, on arrive sur des choses assez importantes. Alors, si on regarde les modes de propulsion, en gros, pour faire court, on va rester quand même beaucoup sur les moteurs thermiques, qui n'ont pas dit leur dernier mot, qui vont améliorer leur efficacité énergétique. On ne parle plus de l'hydrogène, et c'est une bonne chose, parce que c'était vraiment ce que certains ont appelé une utopie technologique. On le savait depuis le début, mais voilà, il y a eu une mode. L'Islande était très en pointe dessus. Je pense que maintenant, ils font moins les malins, pour beaucoup de raisons, et celle-ci en particulier. Donc voilà, là encore une fois, je passe vite. Les agrocarburants ne vont pas changer complètement la donne. On connaît tous les problèmes que ça pose. Donc finalement, y a l'hybride qui permet d'avancer vers la voiture électrique. La voiture électrique, il y a des problèmes de stockage. Donc il n'y a pas de solution miracle. Il faudra faire des petites adaptations qui vont prendre du temps. Et ça, c'est un graphique très important. Chaque fois que vous voulez faire une innovation technologique sur un parc, il faut prendre en compte le délai de réaction et de mise en œuvre sur le parc. Alors, je vous explique juste des éléments parce qu'on le retrouve partout. Si vous voulez changer les chaudières, si vous voulez changer quel que soit les équipements à large échelle, vous avez la commande grise qui est la nouvelle technologie. Elle doit être introduite dans tous les dispositif neuf, en l'occurrence des véhicules, que vous vendez. Vous dites, moi, ça y est, j'ai un système, par exemple, le Start and Go, qui permet de couper le moteur quand je suis à l'arrêt. Et le temps que tous les concessionnaires de toutes les marques le vendent, il faut, en gros, 10 ans, les 5 premières années, c'est la première marque à le brevet qui est fait. Ensuite, vous avez la loi de survie des véhicules qui fait qu'il y a un renouvellement et au bout de 25 ans, il reste quelques 2 chevaux et 4 ailes, mais plus beaucoup. Et voilà, les véhicules disparaissent, sont revendus d'occasion, et disparaissent. Et vous faites la résultante des deux, et vous avez la vitesse à laquelle vous allez pouvoir faire pénétrer votre innovation dans le parc. Et vous voyez qu'en gros, on dit 15 ans, mais au bout de 15 ans, on a renouvelé 60% du parc. On peut accélérer un petit peu ces effets, mais ça veut dire que voilà, vous avez une inertie terrible, quel que soit le domaine considéré. Ça s'applique à d'autres secteurs que l'automobile. Voilà. Efficacité énergétique des moyens de transport, c'est important d'avoir ces notions en tête. Là, on est juste sur le transport de marchandises parce que c'est plus facile à comparer. Vous avez une tonne de marchandises que vous voulez déplacer. Donc là, on peut bien comparer. Quand on est dans le transport de passagers, ça va dépendre du taux de remplissage. Est-ce que votre train il a plein à un tiers ou à deux tiers ou à 100%. Voilà. Donc là, vous voyez que le transport maritime, transport ferroviaire, c'est très efficace. Et que quand on arrive sur l'avion, avec le poids lourd entre les deux, on est sur des moyens de transport très peu efficaces énergétiquement parlant. Donc l'aérien s'est très développé depuis les années 60, et ça sera peut-être une parenthèse de l'aérien populaire. Peut-être que d'ici quelques décennies, on va revenir à un produit plus de luxe ou réservé à certaines catégories de population. Donc je pense que ça, en termes de grandeur, physique, c'est important à avoir en tête. Maintenant...
Une question sur le transport fluvial. Schmitt, Rerazaf. Je suis un peu étonné par les deux chiffres transport fluvial et train entier, puisque c'est pas tout à fait le message qui passe en général.
Allez, oui, je vous écoute.
On dit régulièrement, à travers le canal du Seine-Nord en particulier, que ça va permettre d'économiser de l'énergie et d'autres. Si je regarde ça, a priori, c'est pas tout à fait le problème.
Économiser de l'énergie, ça dépend par rapport à quoi? On est plutôt par rapport au poids lourd, transport de marchandises par
ouais,
par. Et donc vous voyez qu'on passe,
mais
on passe d'un canal.
On peut imaginer qu'à la place d'un canal, on fasse des trains.
Ah oui, tout à fait. Ah oui, je suis d'accord. Vous voyez le coût en infrastructure d'un canal. Bon, il y a une époque où on investissait sur des canaux. C'était des chantiers importants, une époque dans l'histoire. Maintenant, on fait avec ce qu'on a, et il faudrait les utiliser au maximum, et puis effectivement miser sur le transport ferroviaire. C'est une aberration de rester au... Mais là, si vous voyez, c'est pas uniquement un problème technique. Qu'est-ce qui fait que les gens préfèrent le transport de marchandises par camion que par train? Il faut quand même avoir à l'esprit. C'est qu'il y a toute une réglementation qui a été homogénéisée. Si vous voulez aller de Finlande en Espagne, en termes de paperasserie douanière, ça va se passer assez bien. C'est pas homogénéisé au niveau des chemins de fer, et vous avez plusieurs systèmes de chemins de fer ferroviaires, des tensions, des largeurs de voie pour l'Espagne, j'ai pris volontairement cet exemple, qui fait que ben, votre train, finalement, il va arriver très lentement. Donc, c'est un chantier très lourd, mais qu'il faut lancer maintenant, et qu'il faudrait lancer avec beaucoup plus d'énergie au niveau européen, pour dire, on va essayer d'harmoniser. D'un point de vue réglementaire, c'est jamais qu'un problème d'organisation, ça va aller. Mais si vous voyez toute l'organisation sécurité qu'on a dans les transports avec des normes, on met tel type d'éclairage et normes de sécurité, on a un chauffeur et un machiniste, tout ça, vous voyez bien que pour harmoniser ça, ça va être très lourd. On prend la réglementation allemande ou française, bon, rien que ça. Voilà, donc il y a quelqu'un qui voulait intervenir, donc...
Michel, tu présentes.
Plusieurs questions à vous poser. Ce qui sera intéressant déjà, c'est ben, quand on parle des transports, on fait une fixation sur les transports. Donc, dites-nous combien la part transport représente en consommation énergétique en matière des produits hydrocarbonés. Ça, c'est déjà intéressant parce que tout le monde se polarise sur les transports. Et quand vous allez nous dire le chiffre, on va se rendre compte que par rapport à la consommation globale des produits, il y a un pourcentage qui est intéressant. Deuxième point, vous dites transport maritime, canal Seine-Nord, tout ça c'est l'Arlésienne. Je dirais ça coûte des milliards d'euros. L'État et l'Europe n'ont pas les moyens de financer ces projets puisqu'ils font appel aux finances privées. Le canal Seine-Nord, je répète, va être lancé sous forme de partenariat public-privé. Je dirais qu'il faudra toujours des camions puisque tout le système de la société est géré en flux tendu, et ce qu'on oublie de dire, c'est qu'on fait, je dirais, des belles lignes, comme la ligne Perpignan-Bécancour. Les grands groupes français sont actionnaires, et je dirais ça fait 5 ans que ça dure, et on passe maximum 2 trains par... faut le dire, ça, 2 trains par nuit sur la ligne Perpignan-Bécancour. L'investissement qui a été fait à la plateforme du Poulou à Perpignan représente 14 millions d'euros. Et il y a 2 trains qui arrivent depuis 4 ans. Donc il y a d'autres problèmes à régler. Là, le plan de Borloo sur le fret a été lancé hier. Je disais dans les pages jaunes du Figaro tout de suite que la SNCF se met en grève. On va même de savoir ce qui va se passer à travers les 7 milliards que l'État a développés. Donc votre rôle, c'est aussi de dire les chiffres tels que... Moi, je demande la question, combien la consommation énergétique représente dans les transports? Et puis après... d'expliquer aussi qu'il y a un certain nombre de difficultés qui dépassent largement le canal Seine-Nord, les canaux qu'on pouvait faire à l'époque du cheval, je dirais, sur les berges. Enfin, tout ça, il y a quand même un certain nombre de réglementations à prévoir. Merci.
Alors, donc, pour la part... pour la part du comment dire... des transports dans le la consommation et la production de pétrole, ben c'est environ la moitié, hein, voire un peu plus. Donc effectivement, si on se focalise sur le pétrole, ce qui est un petit peu l'objet de cette présentation, c'est un chantier global, et je répète, plutôt 2/3 dans les pays développés comme le nôtre, dit développés comme le nôtre. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour revenir ici, qu'est-ce que ça nous apprend, ce genre de graphique? Transport maritime, très efficace par rapport au transport de poids lourds, un peu légèrement par rapport au transport fluvial, et très très efficace par rapport au transport aérien. Ça veut dire que si on a une augmentation du prix et qu'on a une contrainte sur la ressource, on ne va pas avoir une relocalisation complète. C'est-à-dire que le fait de faire venir une chemise de Chine, vu que le transport fluvial coûte très peu cher et est assez efficace surtout, eh bien ça ne va pas, le transport maritime autant pour moi, coûte très peu cher, parce que là, parfois, c'est un peu long. Finalement, ça ne va pas réellement changer la donne de ce point de vue-là, sur le point de vue textile. Moi, j'avais calculé que pour qu'on arrive à des frais, c'est quelques centimes, hein, pour par chemise, le tronçon maritime entre la Chine et l'Europe. Alors, je ne parle pas des tronçons camions avant et après, mais juste la tronçon maritime. Si vous voulez que ça arrive à 1 euro par chemise, eh ben, il faut que le baril soit à 2 500 $. Donc vous voyez que on aura eu d'autres soucis avant. Donc ça veut dire que il faut quand même voir que on a tendance à avoir des schémas simplistes, et c'est un petit peu l'ambition, que ça va pas bouger partout de la même manière. Voilà, c'est un petit peu ça. Et vas-y.
Je voudrais compléter. Alors, si vous voulez, je vais prendre le cas du transport passager pour que les choses soient bien claires pour tout le monde. Les constructeurs automobiles, alors, derrière l'AIE et les gens du pétrole, on dit pendant longtemps la question de la ressource pétrolière ne nous concerne pas. Et puis on verra après ça, la question de l'effet de serre ne nous concerne pas. Beaucoup de professions ont l'attitude élitiste, aristocratique, de considérer que la prise en charge des problèmes, c'est pour les autres et que leur activité est prioritaire. Résultat, vous l'avez vu avec la crise de l'année dernière, plus la crise financière derrière, GM et Ford ont été pillés, les Chrysler. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on doit travailler avec vous et quel est le sens de la discussion qu'on doit avoir? C'est faire en sorte que les professions fassent le mieux possible les virages en question et ne se mettent pas dans des situations de résistance qui risquent de les emporter. On va avoir un énorme problème sur les transports. Et Jean-Luc l'a dit, c'est le secteur d'activité dans ce siècle qui va le plus changer. Il est pris entre deux tenailles, la tenaille pétrole et la tenaille environnement. Alors, comment peut-il faire le virage, si je puis dire? Et par rapport à la question initiale sur le fluvial, pourquoi le fluvial? Alors, d'abord, tout n'a pas besoin d'être livré à la même vitesse. Bon. Pourquoi le fluvial est utile? Pour une raison très simple, c'est qu'au réseau ferroviaire, on lui fait faire deux métiers. On lui fait faire le transport de passagers et le transport de marchandises. Et c'est très très difficile sur le même réseau d'arriver à faire les deux activités avec énormément d'efficacité. Bon. Les gens n'aiment pas que les trains traversent les villes la nuit. Hein. Donc il faut contourner les villes. C'est pas simple tout ça. Donc l'idée qu'il faut basculer toutes les marchandises des camions sur les trains est une idée généreuse, mais la tuyauterie n'est pas capable de le faire. Donc il faut bien comprendre ça. Par contre, est-ce que la manière dont on gère les marchandises, les gabarits des véhicules, les puissances maximales des camions, etc., tout ça va être des choses qui vont être en débat? Et bien évidemment, le but, c'est de faire en sorte qu'on arrive à faire cette transition-là. Vous avez bien repéré que la France n'a plus de matières premières dans son sol. Donc on va rester, bien évidemment, dans une économie mondialisée. On est obligé d'aller chercher les matières premières chez les autres. Donc il va y avoir un secteur transport qui, même dans les transitions qu'il va falloir faire, restera un secteur extrêmement actif et on va parvenir vers des sociétés complètement localisées. Enfin, on va parvenir aux mérovingiens. Hein. Bon, mais la capacité du secteur des transports à optimiser les véhicules, les chargements, etc., va faire que les transitions dont parle Jean-Luc pour la partie pétrolière se fera plus ou moins difficilement. Et notre but à tous, c'est que, bien évidemment, la transition se fasse de la façon la plus souple possible, parce qu'on voit bien toutes les difficultés sociales que donnerait une situation qui serait une situation en rupture ou qui devrait se faire sur des délais très très courts. Vous l'avez vu avec ce que vient de dire Jean-Luc, et je voudrais insister là-dessus, la marge de manœuvre de nos sociétés à 5 ans est très faible. Parce que tous les investissements lourds demandent plus de 5 ans. Faire un barreau de TGV, on s'en prend pour 10 ans. Hein. Par contre, la flexibilité de nos sociétés est forte à 20-25 ans. Parce que là, on est capable de changer toute une gamme d'équipements. Mais, encore une fois, il faut que tout ça soit mis dans une scénarisation et que les décisions soient prises suffisamment tôt à l'avance. Parce que sinon bah, pendant les 20-25 ans, on est dans une grande difficulté. Donc, alors, j'imagine bien qu'il y a plein de professions ici qui sont représentées, du bâtiment, des transports et autres. Qu'on se comprenne bien. le but, c'est d'essayer d'organiser les processus de transition dans un siècle qui va être, en la matière, extrêmement différent du XXe siècle. Le XXe siècle a été marqué par un coût décroissant de l'énergie, une accessibilité sans cesse plus facile à l'énergie. Le XXIe siècle nous pose la question inverse. L'accès va être plus difficile, les coûts sont croissants, et n'oubliez surtout pas que vous avez aujourd'hui qu'un milliard d'habitants dans une société, dans la société comme la nôtre, qui a accès à bien consommer. 3 milliards sont en train d'y rentrer aujourd'hui, et les Chinois vont à la pompe et ils klaxonnent, hein, ils ont droit. Bon. Et puis que vous en avez 3 milliards derrière qui attendent et qui ont encore des niveaux de vie très faibles, et que dans ce siècle qui connaîtra la fin de la croissance démographique humaine autour de 2050-2060, il y aura encore 3 milliards d'habitants de plus qui vont venir renforcer l'effectif actuel. On se stabilisera autour de 9. Hein. Bon. Donc aujourd'hui, il va falloir faire un système qui est capable de donner des vies satisfaisantes, en gros, à 10 fois plus de monde qu'aujourd'hui. Bon, donc vous voyez les questions que l'on a, et plus on optimise le système, mieux ça va. Mais encore une fois, c'est ça le propos qu'on a en commun avec Jean-Luc. On vous donne un grand coup de projecteur sur le futur, et en vous disant, en fonction de vos responsabilités, essayez de regarder comment vous pouvez faire le virage le mieux possible, sachant que dans ces sujets-là, historiquement, la règle de l'histoire est très simple. Ceux qui s'adaptent, qui comprennent le monde, qui prennent les bonnes décisions en temps utile, sont bien évidemment économiquement et politiquement les gagnants.
Voilà, donc juste pour conclure, parce que je pense que là, on peut dépasser les délais, juste trois éléments. Ce sur quoi il faut mettre l'accent, c'est l'efficacité énergétique. Essayer de chercher un approvisionnement supplémentaire en carburant, comme on aurait pu penser que les États-Unis le fassent en allant envahir l'Irak, c'est sans issue. Bon, c'est schématique, parce qu'il y avait d'autres raisons pour lesquelles ils sont allés en Irak, mais on voit bien que ça, c'est une solution qui est une impasse. On peut peut-être gagner quelques années, mais on ne va pas aller très loin. Donc, efficacité énergétique, ça veut dire se poser les questions, comment je fais pour m'adapter à un contexte où j'ai moins d'énergie. Deuxième point, c'est que ça va être un chantier très décentralisé. Autant pour le premier choc pétrolier, on a pu dire, j'ai un problème sur le pétrole, je passe au nucléaire, donc finalement c'est très centralisé, on sait bien faire ça en France sur la manière de produire l'électricité, et puis on fait aussi de l'efficacité énergétique. Autant là, on sent que ça va être les acteurs, et c'est au niveau des convertisseurs d'énergie, donc c'est-à-dire l'automobile, la machine à laver, les bus, donc c'est les consommateurs et les utilisateurs qui vont devoir être impliqués dedans. Et ça, on n'est pas très bon en France pour faire les choses décentralisées. Hein, donc c'est important d'avoir l'esprit. Et troisième, le facteur important, puisqu'on sait s'adapter, c'est la rapidité avec laquelle ça va se passer et la manière dont on aura pu anticiper. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir ces clés de lecture, et on peut avoir en première approximation une vision unifiée en essayant de simplifier, mais je crois que c'est important de comprendre que, ben, pour prendre le graphique qui est encore affiché, tous les moyens de transport ne sont pas aussi efficaces énergétiquement parlant, et ils ne vont pas tous réagir de la même manière à une pénurie d'énergie. Il y en a qui vont vraiment être très fortement pénalisés, comme l'aérien. Et il y en a d'autres, comme le maritime, qui vont beaucoup mieux s'en sortir. Et au niveau du transport de marchandises, la marche et le vélo, c'est ce qui est le plus efficace énergétiquement parlant. Donc, voilà. Transport de passagers, c'est la marche et le vélo. Oui, parce que le transport de marchandises, ça s'est fait, remarquez. Ça date un peu. Donc voilà, le transport passager, c'est marche et vélo. Donc, ben, on peut, dans certains cas, y revenir un petit peu... Donc, je m'arrête là pour la présentation.